C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, je suis avec Adjan Chellil. Salut Adjan.
Salut Thibaut. Ce matin, on va décrypter encore l'actualité des médias sociaux, mais d'un prisme un petit peu particulier quand même, puisqu'on va parler de personnes qui ne sont pas censées être sur les médias sociaux que nous utilisons en tout cas.
Oui, on va parler aujourd'hui de l'usage du social media chez les moins de 13 ans. Vous savez, les moins de 13 ans en 2018, c'est ceux qui sont nés après 2005. C'est la première génération à ne pas connaître ce qu'aura été la vie non connectés et sans les réseaux sociaux. Ce sont en gros ce qu'on peut appeler des social media natives.
Effectivement, ce sont des gamins, j'allais dire, des enfants qui n'ont...
Moi j'aime bien, on peut dire gamins.
Ouais, des gamins. c'est des gamins. Nous on est des jeunes, eux c'est des gamins. c'est des enfants qui n'ont jamais connu de monde sans réseaux sociaux.
Voilà, et tu l'as dit, la plupart des réseaux sociaux interdisent ou limitent l'usage de leur plateforme au moins de 13 ans. Mais dans les faits, ça fait quand même bien longtemps que nos petits amis se sont affranchis des règles fixées par les grandes plateformes. Et donc, on parle d'une génération qui est biberonnée au smartphone, aux tablettes familiales. Et donc, forcément, ils grugent sur leur âge.
Ah oui, puisque comment vérifier sur Internet l'âge de quelqu'un qui est de l'autre côté de l'écran ? C'est une grande question quand même. À part lui demander,
il faut faire confiance.
Faire confiance. Mais du coup, en lui demandant, du coup, quel âge avez-vous ? Quelle est votre date de naissance ? Mais très jeune, on comprend quand même qu'en changeant sa date de naissance, on peut faire croire qu'on a plus de 13 ans. Quoi.
Oui, c'est vrai que c'est un classique. Et donc, quel usage de ces passagers clandestins du web, de ceux qui ne devraient pas y être sur ces plateformes sociales, comment malgré tout ils utilisent le web social, c'est moins de 13 ans. Tu voulais dire, pardon.
Oui, non, je voulais juste rajouter quelque chose, c'est qu'effectivement, les moins de 13 ans grugent pour aller sur les réseaux sociaux, mais il ne faut pas voir cette pratique comme quelque chose de propre à leur génération. Toutes les générations ont toujours grugé pour paraître plus vieux qu'ils ne sont, que ce soit nos grands-parents ou nos parents qui grugeaient pour rentrer au cinéma pour des films qu'ils n'avaient pas le droit de voir alors qu'ils mentaient sur leur âge. Moi, je me rappelle que même quand j'étais jeune, alors à l'époque, moi, sur l'ordinateur, il n'y avait pas vraiment tous ces réseaux sociaux, mais il y avait des chats sur lesquels il fallait indiquer son âge. Et pareil, je ne sais plus quel était l'âge minimum pour pouvoir parler dessus, mais peut-être même qu'il fallait être majeur. Et on le faisait tous plus petit que l'âge qu'il fallait, quoi. Donc on a tous triché sur notre âge à un moment donné.
Bien sûr.
L'important après, c'est quelles conséquences ça peut avoir aussi.
Voilà, donc effectivement, on a tous été des grugeurs, mais il semblerait que la part de grugeurs sur les social media de moins de 13 ans soit quand même substantielle. On va pas mal parler autour d'une étude qui est sortie au premier semestre 2018, qui a été faite par l'association Génération Numérique. Et vous verrez qu'on a quelques datas vraiment intéressantes de cette étude. C'est une étude qui a été faite sur les 16 500 élèves de 6e et 5e en France pour dresser un bilan sur leur usages médias sociaux. Rapidement, quelques dates là-dessus. En classe de 3e, 85% des collégiens sont au moins inscrits à un réseau social.
Ouais, c'est impressionnant. Ouais.
C'est impressionnant. Et les 7-12 ans, accroche-toi bien, consacrent 6 heures et 10 minutes en moyenne à surfer sur le web chaque semaine. Je ne sais pas si on se rend bien compte, 6 heures et 10 minutes, c'est vraiment énorme.
C'est pas mal, ouais, effectivement, pour ces jeunes.
Et c'est un temps qui est en croissance constante. Il en a pris plus de 30 minutes.
Oui, parce qu'on peut imaginer aussi que... Après, il faut voir... là où je veux toujours prendre un peu des pincettes sur ce genre d'études, c'est qu'il faut voir dans quel milieu social l'étude a été faite. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants maintenant, plus ça va, plus tous les enfants vont avoir ça chez eux, mais ont une tablette à la maison, ou un ordinateur avec un accès à Internet, etc. Mais forcément, plus on va dans des milieux qui sont pauvres, moins il y a de tablettes et d'ordinateurs à la maison, et plus on va dans des milieux qui sont plus aisés, plus ils ont accès à ce genre de matériel.
Eh ben écoute, tu vois, en 2015, il y avait une étude Ipsos qui a été faite pour la chaîne Gulli. Tu vois, la chaîne Gulli, c'est vraiment une chaîne pour les enfants et qui disait quand même, donc on est en 2015, je pense que le chiffre a grandi,
a évolué,
73% des 4-14 ans détenaient au moins un écran perso.
Un écran perso.
Ouais, ah, donc ouais. Souvent une tablette comme point de départ. Et 64% des 11-14 ans possédaient un smartphone. Ça, c'était en 2015. Ouais, J'ai pas trouvé.
Ça m'étonne moins le smartphone. Mais ce qu'il faut savoir, c'est dans les écrans, ils comptent aussi les, tu sais, les jeux vidéo portables.
Ah, peut-être. Oui.
Ce qui est possible aussi.
Oui, qui ont accès à Internet aussi.
Qui peuvent avoir un accès à Internet, effectivement. Donc, dans ce cas-là.
Et juste un autre truc, hein, c'est que ce qu'on voit, hein, c'est ce qui est flagrant, c'est que le smartphone est devenu, en fait, pour ces moins de 13, hein, le cordon ombilical avec leurs amis. C'est leur.
Bien sûr.
Y compris quand je suis dans le cercle familial, c'est le moyen de rester en contact avec mes potes de collège.
C'est clair. Alors, des chiffres, j'en ai aussi, moi. J'en ai de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en France.
La CNIL,
effectivement, qui a fait une étude l'année dernière, en 2017, auprès de pas mal de jeunes aussi, et surtout la tranche d'âge 11-14 ans. Alors, on n'est pas exactement sur les moins de 13 ans, mais on est quand même sur la même classe d'âge. Et donc, moi, il m'indiquait que 60% des garçons de cet âge-là avaient été présents sur un réseau social et 68% des filles. Donc, ce qui fait quand même un peu plus des deux tiers pour chaque sexe. Seulement 28% des garçons avaient été aidés par quelqu'un pour paramétrer leur compte et 38% des filles. Donc, ce qui est très peu.
Ils n'ont pas besoin d'un adulte pour paramétrer leur compte, ils savent le faire eux-mêmes.
Ça le confirme, mais on pourrait penser qu'à leur âge, leurs parents vont les accompagner dans leurs premiers pas sur les réseaux sociaux pour pour paramétrer leur compte correctement vis-à-vis aussi du public et du privé, de ce qu'on peut mettre en public ou pas. Ce n'est pas le cas. Quasiment 60% d'entre eux utilisent leur vrai nom directement sur les réseaux sociaux, pas d'anonymat ou de choses comme ça.
C'est impressionnant, je trouve ça vraiment étonnant parce que de nos usages à nous de pré-ado de l'époque, où en tout cas on avait quand même une culture du pseudo.
L'anonymat était primordial.
Ah ouais, totalement. Oui. Et ça, c'est vraiment étonnant. Ouais.
Peut-être parce que si on avait envie de raconter plus de conneries sur Internet et qu'on voulait pas qu'on nous retrouve, qu'on se disait on veut utiliser un pseudo parce que on va dire des conneries que si on nous lit et qu'on sait que c'est moi, c'est la honte.
Tu veux dire que maintenant, les moins de 13 ans bossent déjà leur profil LinkedIn?
Ils sont sérieux, voilà. Ils ont un profil LinkedIn. Ils sont en train de monter un CV solide, commencent à démarcher des entreprises.
Exactement, c'est pas de la blague.
J'aimerais faire ça dans 10 ans. Est-ce que vous auriez un petit conseil à me donner? Un garçon sur deux dit poster des photos de lui, de ses copains ou de sa famille directement sur ses réseaux. Et c'est donc un garçon sur deux, mais c'est 75% des filles de cet âge-là, de 11-14 ans, qui le font. Donc 3 filles sur 4.
Qui posent des images sur
d'elles-mêmes, de leurs copains ou de leur famille. Donc là, il n'y a vraiment plus d'anonymat du tout, hein, forcément, si tu poses des photos de toi. Ils sont quand même assez lucides sur certaines choses. Il y a seulement 13% des garçons et 18% des filles qui pensent que leurs données ne peuvent pas être utilisées et leur appartiennent.
Oui.
Donc, et la majorité sait que ça leur appartient plus une fois que c'est sur les réseaux. Et 90% d'entre eux pensent qu'on ne peut pas diffuser une photo d'eux sans leur accord ou celui de leurs parents.
D'accord.
Ce qui est vrai.
Oui, ce qui est très vrai. Donc, ils sont au fait des choses, mais ça n'empêche pas qu'ils publient quand même.
Voilà, exactement. Ce n'est pas parce qu'ils sont au fait des choses qu'ils n'ont pas envie de le faire quand même.
Et alors, sur quels réseaux sociaux est-ce qu'on les trouve, ces moins de 13 ans? Alors, on a une liste. On les trouve évidemment sur nos réseaux sociaux habituels, les classiques.
Réseaux de vieux.
Et puis aussi sur un certain nombre de réseaux un petit peu plus exotiques et qui sont vraiment dédiés à une niche comme ça, jeunes, peut-être pas moins de 13 ans, parce que légalement, rappelons-le, les plateformes sociales n'ont pas le droit d'avoir des gens de moins de 13 ans, mais ils le savent bien que le gros de leur audience, c'est cette tranche d'âge-là. Et on va parler notamment de Musical.ly. Musical.ly. Alors, si vous ne connaissez pas Musical.ly, c'est une application vidéo native sur mobile qui est une sorte de réseau social autour du lip sync. Je sais pas si tu vois ce que c'est le lip sync.
Pas du tout.
La possibilité de faire des chorégraphies musicales, prendre un hit et puis de chanter par-dessus.
Je crois que j'ai vu les pubs passer, sur YouTube et plusieurs de choses.
Et Musical.ly est devenu TikTok en août 2018. Donc c'est le nouveau nom de Musical.ly. Et il faut savoir quand même que 42% des élèves de 5e et 6e en France sont sur cette application. 42%, c'est vraiment étonnant. ça représente quand même 2,5 millions d'utilisateurs en France. Et donc, chez les filles notamment, 62% des filles en 5e déclarent être inscrites sur cette plateforme sociale. C'est complètement dingue. Et donc, voilà, on voit que bah, les moins de 13 ans, ils ne sont pas forcément tout à fait sur les mêmes plateformes que nous. Ceci étant, bah, ils sont aussi sur Instagram, par exemple, qui considèrent comme pour eux comme la plateforme d'actualité.
Oui.
Voilà, et c'est un réseau où il est possible de suivre des contenus liés à leur passion. Si ils kiffent les trottinettes, bah, ils peuvent trouver plein de vidéos de stars de la trottinette. Si c'est le sport, il y a toutes les news sur leurs footballeurs préférés, les célébrités, etc. Et ils le voient vraiment comme un complément à YouTube. Où ils vont pouvoir retrouver les coulisses de leur YouTuber préféré. Et puis surtout, ce qui plébiscite chez Instagram, c'est la messagerie privée qui est inaccessible aux parents. Et on pourra revenir sur cette logique de messagerie privée, parce que c'est vraiment un gros déclencheur pour les moins de 13 ans.
Bon, alors premièrement, moi je suis très content d'avoir été ciblé par Musical.ly en termes de pub, c'est-à-dire que je suis encore très jeune. Et deuxièmement, effectivement, je pense qu'Instagram, en fait, c'est tout simplement le Facebook de cette génération-là par rapport à la nôtre. C'est que nous, Facebook, c'était vraiment le réseau qu'on utilisait le plus. Et puis après, il y avait des réseaux un petit peu autour qu'on aimait bien essayer. Quand il y a eu Vine, quand il y a eu le début d'Instagram, quand il y a eu le début de Snapchat, etc. Où, voilà, mais notre réseau de base, où là, on communiquait le plus avec nos amis, où effectivement, il y avait une messagerie privée, où effectivement, on postait à l'époque beaucoup plus de photos qu'on en poste aujourd'hui, où il y avait moins aussi de place pour les marques et l'actualité, où c'était quand même beaucoup un réseau avec ses amis.
Ils retrouvent tout ça aujourd'hui sur Instagram.
Exactement, raison, la même chose sur Instagram, mais je pense que c'est leur Facebook à eux, tout simplement.
Et ben, notamment, ben, c'est exactement ça, parce que leur usage de Facebook et Twitter, ben, pour eux, c'est le réseau social des vieux où on parle politique, donc globalement, c'est plutôt chiant. Facebook dit une diminution par deux du taux d'inscrits en 6e et 5e, donc toujours selon la même étude, 21,7% des 6e et 28,7% des 5e, donc on voit que c'est vraiment à la marge l'usage de Facebook chez cette tranche d'âge là.
Alors toi, c'est une plus grande tranche d'âge toi que t'as, c'est ça? La tranche d'âge, c'est
Non, c'est sur des élèves de 5e, 6e, donc sont des gamins qui normalement ont moins de 13 ans sauf redoublant.
Et déscolarisés.
Voilà, il y en a.
Oui, mais non, moi j'avais des chiffres qui n'étaient pas exactement les mêmes là d'après la CNIL sur les 11-14 ans en tout cas en termes de avoir un compte sur ces réseaux là. C'est assez équivalent, c'est-à-dire qu'il y a, ils ont, je ne dis plus le chiffre exact, mais tous, c'est à peu près le même pourcentage d'enfants qui ont un compte sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat, ils ont des comptes de partout. Là où ça évolue, c'est que depuis 2 ou 3 ans, Snapchat remonte énormément, Instagram remonte aussi, et Facebook et Twitter chutent complètement.
Oui.
Et après, dans l'usage, il y a aussi YouTube dont on peut parler.
Voilà, donc là, effectivement, ils ont un compte. Après, leur usage n'est pas actif. Hein. Ils sont très peu nombreux à être réellement actifs sur Facebook. Et le seul avantage de Facebook, hein, pour un moins de 13 ans, bah, c'est vraiment Messenger. Et puis peut-être aussi, ce qui est un déclencheur sur le fait de s'inscrire à Facebook, c'est l'inscription via Facebook Connect. La capacité qu'une fois que tu as ton compte Facebook, tu peux te connecter à d'autres sites avec Facebook Connect.
Et puis, il ne faut pas oublier que pour des enfants de moins de 13 ans, Facebook, c'est leur réseau de leurs parents.
Exactement.
Et que être sur Facebook, ok, c'est cool, on peut envoyer un petit message par Messenger à maman ou à papa, ou même peut-être à tonton ou mamie, et on va pouvoir leur partager une petite photo de nous
bien sérieuse
à la cour de récré,
photo de mes révisions, voilà, actuellement de mon brevet,
ou prêt à rentrer en cours avec 10 minutes d'avance, et puis après il y a les autres réseaux où eux ne sont pas.
Voilà. Et alors, allez, sur le qu'on continue à dérouler, hein, l'usage YouTube. Ben YouTube, c'est assez étonnant parce que YouTube, c'est le pont générationnel finalement, et c'est la plateforme sociale qui peut être. Alors, c'est peut-être parce que c'est pas exactement une plateforme sociale
aussi.
Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que l'étude génération numérique, elle note un truc qui est vraiment prégnant, c'est que il y a une perte de, je cite, une perte de désirabilité pour des réseaux qui sont associés à une génération qui n'est pas la leur. l'heure. Donc les moins de 13 ans se barrent dès qu'il y a des vieux, hein, concrètement.
Moi, voilà. Je pense que c'est un gros rapport avec les parents. C'est-à-dire ouais. qu'ils partent parce que leurs parents sont sur ces réseaux-là et qu'ils n'ont pas envie d'être espionnés par leurs parents.
Voilà, et au milieu de tout ça, bah, y a YouTube qui, lui, est vraiment un point d'entrée important mm-hmm. hein, pour les moins de 13 ans et où on trouve aussi d'autres générations. Donc, finalement, c'est une plateforme transgénérationnelle, mais aussi parce que pour les moins de 13 ans, pour cette génération social media native, il y a un vrai écosystème pré-ado dans la plateforme. Il y a ses propres créateurs de contenu, une émergence de YouTubeurs social media native avec ses propres codes de contenu. Par exemple, je ne sais pas si c'est déjà tombé là-dessus, le Room Tour.
Non.
Non, voilà. Bah, si tu creuses sur YouTube, regarde Room Tour. Ça, c'est un truc typique de génération Z de moins de 13 ans. C'est je fais le tour de ma chambre en vidéo. Et donc, voilà, il y a un écosystème de moins de 13 sur YouTube.
Après, il y a aussi les YouTubeurs classiques qui sont les plus connus, qui vont avoir une énorme majorité de leur audience, qui sont les moins de 13 ans. Les moins de 13 ans sont complètement fans. J'ai oublié son nom, mais de ces testeurs de jeux vidéo, de tous ces youtubeurs qui parlent directement à la caméra, qui parlent directement à ces jeunes-là, à ces enfants-là. Et je pense qu'il y a une vraie starification, en tout cas, de tous ces gars-là qui sont youtubeurs. Ouais. Et c'est aussi une forte raison de leur présence aussi active à ces moins de 13 ans sur ces réseaux-là.
Ouais. Nous, notre génération était fan de tout ce qui était issu de Canal, les nuls, etc. Et se gavait de ces contenus dès qu'il en existait. Les nouvelles célébrités des moins de 13, d'ailleurs, il y a de la presse spécialisée là-dessus, c'est assez dingue. Ce sont les youtubeurs, ce sont les Norman et compagnie, comme tu l'as dit.
Par contre, on n'est pas de la même génération, parce que moi, c'est pas les nuls. Hein. Moi, c'est plus déjà de Jamel ou...
Voilà. Donc, passons vite sur ce sujet. Ensuite, Snapchat. Snapchat, c'est toujours la plateforme numéro uno pour les moins de 13 ans. Snapchat, c'est 85% des 5e, 6e qui sont inscrits et actifs sur Snapchat. C'est dingue. 85% d'utilisateurs actifs sur les moins de 13 ans. Il y a trois raisons que moi, je vois à ça. La première, c'est ses fonctionnalités. Et puis, il y a une vraie logique de gamification de l'application aussi. Tu as les logiques de badge, etc. Tu as le caractère éphémère des contenus diffusés. Je pense que ça, c'est un gros levier d'attractivité pour les moins de 13. Je peux poster des trucs et potentiellement, ils disparaissent, même si on sait que ce n'est pas tout à fait vrai. Et puis, comme Facebook, pendant l'âge d'or, l'application, il n'y a pas de parents inscrits.
Oui, il n'y a pas de parents inscrits. Et comme tu disais, moi, je pense que le côté éphémère joue un rôle primordial sur ce réseau-là pour les moins de 13 ans. C'est que tout à l'heure, tu disais, sur Instagram, on peut communiquer avec nos copains sans que nos parents les voient. Mais quand on a 13 ans, suffit qu'on ait fait une connerie et notre téléphone, il peut être récupéré par nos parents pour être privé de téléphone pendant 24 heures ou tout ça. Nos parents, ils peuvent aller regarder dans notre téléphone, sur nos réseaux, avec qui on parle, etc. Et sur Snapchat, c'est un réseau où les messages sont éphémères et où ils vont disparaître. Et donc, si demain, ma mère me prend mon téléphone pour aller regarder dans mes conversations Instagram ou Facebook ce que j'ai pu raconter à mes copains parce que j'ai fait une énorme bêtise, elle ne pourra pas voir dans Snapchat ce que j'ai écrit puisque ça s'est déjà effacé. Et ça, c'est quand même un avantage énorme quand on a envie de cacher un peu des choses à ses parents et pouvoir discuter entre enfants. Sans être emmerdé.
Donc les moins de 13 ans ont tout compris pour vivre heureux, vivons cachés, en tout cas sur le social media. Et moi j'ai une question pour clore ce podcast, c'est est-ce qu'on va voir finalement l'apparition d'un web générationnel qui serait scindé entre celui des adultes et celui des jeunes ? Est-ce que c'est déjà ce qui est en train de se produire ? Est-ce que finalement l'utopie Facebook de Zuckerberg qui serait celle d'avoir une espèce de plateforme unique, transgénérationnelle est morte et finalement le web maintenant va toujours finalement se scinder avec d'un côté les adultes, d'un côté les enfants. Qu'est-ce que toi tu penses de ça ?
Moi, je pense qu'il faudra beaucoup de temps pour en arriver là quand même. Ces enfants, ils sont encore présents sur Facebook. Disons que Facebook a plus tendance à devenir une plateforme un peu où il y a tout le monde, familial, etc. Alors qu'à la base, pour ma génération à moi, en tout cas, c'était plus c'était genre « Waouh, trop cool, avec mes potes, on est sur Facebook ». Nos parents étaient trop vieux pour l'être. Aujourd'hui, tout le monde l'est, donc c'est en train de faut que Facebook change un peu sa vision pour devenir cette plateforme-là familiale où il y a tout le monde dessus. Carrément.
Est-ce que tu penses que c'est encore faisable ou alors est-ce que la survie de Facebook, de cette utopie-là, elle réside dans la création de nouveaux produits comme Instagram et un nouveau produit de Facebook, comme WhatsApp et un autre produit de Facebook, et peut-être que ça passe par une segmentation marketing de l'offre.
Oui, je vois, mais sauf que sur Instagram, il n'y a pas tout le monde, sur Snapchat, il n'y a pas tout le monde, et sur Facebook, la force de Facebook quand même, c'est que c'est le réseau social où il y a le plus de monde, et donc c'est un réseau social où il y a toute ta famille, où il y a tous tes amis, donc si toi tu n'y es pas, tu as l'impression entre guillemets de rater quelque chose, donc pour l'instant tout le monde sera sur Facebook. Après, dans des années et des années, quand
tout le monde sera sur Musical.ly,
quand cette génération-là qui est sur Facebook mais qui n'est pas ailleurs va disparaître, va mourir, là oui, effectivement, on pourra en reparler, mais ça sera dans très longtemps. Je pense que pour le moment, en tout cas, Facebook va reste un concentré de tout ça.
Écoutez.
Et sur les réseaux sociaux, on peut en dire juste deux mots. C'est les moins de 13 ans, c'est un vrai marché puisque toutes ces plateformes ont créé des plateformes spécifiques. On reviendra dessus une autre fois, mais sur Messenger pour les enfants avec un accord parental avec des parents qui peuvent voir ce qui se passe dessus, avec un YouTube Kids. Voilà, donc il y a...
Bah, t'as raison, c'est là où je vois, moi, une logique de segmentation.
C'est ça. Là, il y a un marché, ouais. Effectivement. Ouais.
On est preneur de votre avis sur cette question-là. Est-ce qu'on voit l'apparition d'un web générationnel scindé en deux? Si vous avez un avis sur cette question, n'hésitez pas à nous en faire part. Alors, pas sur Musical.ly parce qu'on n'y est pas, mais sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter, @supernatif.
Si vous avez moins de 13 ans et que vous nous écoutez aussi, laissez-nous un commentaire,
faites-nous
qu'on le sache.
Coucou, faites-nous un poke.
Qu'on fasse attention à ce qu'on raconte quand même. Non, t'es vieux, Poc. Vous pouvez donc aller laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est là où vous êtes peut-être déjà en train d'écouter ce podcast. Ou surtout, mettez une note. Nous, tous vos retours sont intéressants. Vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify et Deezer ou sur Google Podcast.
À peu près partout.
À peu près partout, au final.
Voilà, on vous souhaite une très bonne journée et
allez,
on vous dit à demain. Salut.
Ciao tout le monde.